Le journal présenté par Olivier Zano, bonsoir.
Bonsoir, le suspense aura duré jusqu'au bout, la mairie de Bienne restera en main socialiste. Glenda González-Bassi a devancé ce dimanche de 200 voix sa rivale, la radicale romande Natacha Pittet. Réaction en ouverture de ce journal. Réaction aussi à Lanneville où Luca Longo devient le plus jeune maire de la commune à 24 ans. Il s'est imposé face à la sortante Catherine Friot-Auclin au deuxième tour. À Saint-Imier, les autorités sont au pied du mur, les citoyens ont largement rejeté le budget 2025, budget qui prévoyait une hausse de la quotité d'impôt. On reviendra aussi sur les quatre objets soumis au peuple suisse ce dimanche. Mais avant tout ça, un mot sur la météo et ce redout qui a quasi rangé la neige dans le tiroir à souvenirs. Ciel découvert cette nuit, un temps bien ensoleillé demain matin avant le retour rapide des nuages dans la journée. De la douceur toujours avec des températures qui oscilleront entre 12 et 14 degrés au meilleur de la journée. La première femme et la deuxième francophone à la tête de Bienne sera donc Glenda González-Bassi. La candidate socialiste a été élue aujourd'hui à la mairie au deuxième tour des élections. Elle a devancé la radicale romande Natacha Pittet de seulement 208 voix. Elle prendra ses fonctions au 1er janvier prochain en remplacement d'Éric Fer. Glenda González-Bassi nous a fait part de ses sentiments quelques minutes après le verdict des urnes.
Je commence à mesurer maintenant le grand honneur que je porte et qui m'est fait à travers la confiance des votes des électeurs. C'est énorme, oui.
C'est énorme, et pourtant c'était serré, hein, 200 voix d'écart à peu près avec Natacha Pittet. Comment vous analysez, vous expliquez ce petit écart finalement avec votre collègue du municipal?
Alors, de manière totalement intuitive, effectivement, cet écart très réduit peut s'expliquer de différentes manières. Je pense notamment c'est lié aux personnes et au positionnement des personnes. Et Madame Pittet avait de toute façon les faveurs du camp bourgeois dans son ensemble, y compris des Verts libéraux. Et ensuite, elle s'est positionnée vraiment au-delà du centre, je dirais, de plus en plus à gauche, et avec ses positions. Et puis voilà, ça explique ceci. C'était peut-être aussi quelque chose qui a été évoqué, la difficulté des électeurs à pouvoir trancher entre l'une et l'autre.
Est-ce que vous avez déjà la tête à ce que vous allez faire, à vos projets finalement?
Alors non, pas du tout, parce que maintenant je réponds, je saute d'une interview à l'autre, donc j'ai peu de disponibilité mentale jusqu'à présent, mais j'y ai pensé forcément auparavant. Mais ma priorité, je dirais, c'est vraiment d'assurer que cette ville se développe, qu'elle se développe de manière positive, sociale et durable.
Natacha Pittet n'était pas loin de la maire élue. On le rappelle, seules 208 voix séparaient les deux candidates. Écoutez la réaction de la radicale romande Natacha Pittet.
Je suis contente quand même du score atteint. J'ai plus de 49% des voix, ce qui est bien pour quelqu'un qui n'est pas du Parti Socialiste et quelque chose d'exceptionnel. Donc je suis très fière de ça, pas à titre personnel, mais à titre de tout le travail qu'on a fait avec toute l'équipe, avec toutes les personnes qui m'ont rejoint, mais de tous les bords politiques. Ça, c'était très enrichissant, ça m'a vraiment beaucoup apporté.
Justement, vous dites un 49%, il vous manque à peu près 200 voix hein, d'écart avec Madame González-Bassi. Il n'y a pas une petite frustration supplémentaire d'être passée si proche, d'être la première femme maire de Bienne?
Alors, on peut voir ça comme ça, c'est plus frustrant, mais de perdre avec 20 points d'écart, ça l'aurait été encore plus. Donc, c'est vrai, avec 200 voix, on se pose la question, qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus? Où est-ce que j'ai oublié d'aller? Avec qui j'ai oublié de parler? C'est quelque chose que je retiens pour moi. Bon, je suis comme ça, je vais me dire qu'est-ce que j'aurais dû faire. Mais voilà, c'est la vie, c'est le monde politique, c'est comme ça.
Un dossier réalisé par Anthony Montandon. Pour rappel, Glenda González-Bassi deviendra la première femme à diriger la ville de Bienne. Elle ne sera aussi que la deuxième maire francophone de l'histoire de la cité salandaise. Notez en passant que les Biennois votaient également leur budget 2025 aujourd'hui. Un oui clair et net à plus de 80% des suffrages. Autre mairie du bord du lac, celle de Lanneville, se jouait aussi ce dimanche. Et c'est un changement qui attend la cité médiévale. C'est Luca Longo qui a été choisi par le corps électoral. Le candidat PLR a obtenu aujourd'hui 751 voix contre 651 à la maire sortante et candidate du Forum Neuvillois, Catherine Friot-Auclin. Dès le 1er janvier, Luca Longo, 24 ans, sera officiellement maire et le plus jeune que la commune ait connu. Écoutez sa réaction.
Très content, très reconnaissant de toutes les personnes qui m'ont soutenu et de toute la population qui s'est déplacée en masse. Voilà, on est presque à 60% de taux de participation, donc la population a vraiment pu s'exprimer. et ça me fait très plaisir que le résultat soit plutôt positif vis-à-vis de moi.
100 voix de différence, vous avez réussi à garder un écart. Comment vous l'expliquez ?
C'est compliqué à expliquer parce que les gens, je pense, ils votent pas forcément pour des partis, mais vraiment pour des personnalités. Donc je ne pourrais pas expliquer quels sont les facteurs très subjectifs que les gens utilisent pour voter. Mais je pense que c'est un dynamisme qu'on a réussi à garder au deuxième tour. Et aussi un dynamisme de pouvoir continuer à motiver les gens. Et même peut-être parler à d'autres partis, d'expliquer que voilà, la mairie elle doit représenter tout le monde.
La déception était perceptible chez la maire sortante, Catherine Friot-Auclin, quelques minutes après que les résultats soient tombés. La candidate du Forum Neuvillois s'était préparée aux différents cas de figure.
Premier tour, on se prépare déjà un premier cas de figure, savoir si on sera au deuxième ou pas. Et puis ensuite, au deuxième, on ne peut pas faire de statistiques précises. Donc voilà, on se prépare quelque part dans tous les cas de figure. Et puis, je crois que là, pour le coup, j'ai la maturité pour assumer ce genre de situation.
Un dossier de Séverine Boé. Notez que Catherine Friot-Auclin, élue en octobre en tant que membre du conseil municipal, indiquera ultérieurement si elle siégera ou non lors de la prochaine législature. Avec l'élection de Luca Longo à la mairie, le PLR devra lui trouver un ou une successeur pour occuper son siège de conseiller municipal. Il faudra un deuxième tour à Corgémont pour connaître le nouveau maire. Aujourd'hui, l'UDC Michel Chan s'est pourtant largement détaché parmi les trois candidats en lice. Il a récolté 284 suffrages à 27 voix de la majorité absolue. Vincent Musolino du mouvement Corgé arrive en seconde position avec 180 voix. Il sera de la partie le 8 décembre pour ce second tour. C'est par contre terminé pour le troisième candidat Thomas Toury d'Ensemble Corgémont, dernier avec 156 voix. On votait pour le conseil municipal également à Corgémont. L'UDC remporte 3 sièges avec Michel Chan, Marc Christen et Ariel Junot. Corgé place 2 élus, tous deux sortants, Vincent Musolino et Astrid von Ville-Gerber. Ensemble pour Corgémont entre à l'exécutif grâce à l'élection de Damien Hugui. Sonvilliers aussi renouvelait ses autorités communales ce dimanche. À la mairie, les jeux étaient déjà faits puisque Rosemarie Jeanneret a été réélue tacitement lors du dépôt des listes. Restait à nommer 6 conseillères et conseillers municipaux. Sont élus les sortants Tatiana Tanner, Cyril Houg et Michel Maurer. S'y ajoutent Roberto Santoro, Cornelia Steiner et David Vieille. Ils étaient 7 à se battre pour les 6 sièges. Simone Schneck de l'UDF reste sur le carreau. Le taux de participation s'est élevé à 45%. Encore des élections dans les villages, élections partielles. Les autorités de La Ferrière sont au complet. Il fallait nommer ce dimanche un conseiller municipal pour une durée d'une année. Élection libre puisqu'aucune liste n'avait été déposée. C'est Detlef Augsburger qui est élu par 7 voix. Il est invité à remplacer la démissionnaire Laure Frank Ullmann. Notez que 22 citoyennes et citoyens ont reçu au moins un suffrage. Et puis à Corteberg, enfin, élection libre aussi pour remplacer Cédric Grunenwald. Denis Grosjean a été élu avec 44 voix, largement devant Andrea Amstutz, arrivé en deuxième position avec 5 voix. Une quarantaine de suffrages sont à attribuer à d'autres citoyennes ou citoyens. On se rend désormais à Saint-Imier, où les autorités sont au pied du mur. Près de 70% des citoyens ont rejeté aujourd'hui le budget 2025. Il prévoit notamment une hausse de la quotité d'impôt de 1,75 à 1,95. Le conseil municipal et le conseil de ville avaient pourtant soutenu quasi unanimement ce budget dans un contexte de déficit structurel inquiétant. La hausse de la quotité aurait permis d'en absorber la moitié. Il faudra trouver autre chose et vite pour éviter un futur découvert au bilan. Un scénario catastrophe qui ne doit pas être pris à la légère, selon le maire de Saint-Imier, Corentin Jeanneret.
C'est clair, hein, on le voit, si la situation ne s'améliore pas du point de vue des rentrées fiscales, et pour le moment il n'y a rien qui nous laisse à penser que ça va s'améliorer, on va vraiment dans le mur, on va dans une situation de découvert où on n'aura plus de fortune du tout, et là ça va commencer à devenir très problématique avec une possible intervention du canton, et quand le canton intervient, ils ne font pas dans la dentelle. Hein. Tout ce qui est non obligatoire est purement et simplement tracé au budget, il n'y a même pas de marge de discussion ou de marge de manœuvre, et ça on peut encore l'éviter. C'est pour ça qu'on le proposait déjà dans ce budget, mais on va quand même s'y atteler pour la suite. On peut encore l'éviter, c'est nous qui tenons encore le couteau par le manche et qui pourrons renverser la vapeur en prenant nous les décisions et pas que ce soit d'autres personnes externes à la localité qui les prennent pour nous.
Les autorités vont se retrouver dès la semaine prochaine pour plancher sur une nouvelle mouture du budget. L'objectif est de pouvoir la valider très rapidement en début d'année pour éviter une paralysie de l'administration. Le canton du Jura comptera dès 2026 un quatrième district formé de la seule commune de Moutier. La cité prévotoise aura droit à 7 sièges sur 60 au Parlement. Les Jurassiens ont accepté ce dimanche à 81,8% cette modification de la constitution cantonale. Canton du Jura qui connaît aussi le nom de son nouveau ministre. Élection partielle au gouvernement aujourd'hui, c'est le centriste Stéphane Teria qui a été élu. Ces noms à l'élargissement des autoroutes. 52,7% des Suisses ont rejeté l'objet ce dimanche. Les citoyens devaient se prononcer sur 6 projets d'extension des routes nationales, dont un en Suisse romande entre Le Vengeron et Nyon. Tous les cantons romands ont refusé d'investir 5 milliards de francs pour ces élargissements. Les arguments du Conseil fédéral qui voulait supprimer les goulets d'étranglement et diminuer les bouchons n'ont pas convaincu. L'analyse de Peter Götzschi, le président du Touring Club Suisse.
C'est évident, ce n'est pas un non contre la voiture, ce n'est pas un non contre les autoroutes. Je pense qu'on a de la chance d'avoir une mobilité qui se fait sur les rails et sur les routes. Puis on doit préserver ça. Mais là, c'était les 6 projets qui n'ont pas convaincu. Peut-être aussi le concept de ces 6 projets. Puis c'est là-dessus qu'on doit travailler parce qu'encore une fois, aussi à l'avenir, on aura besoin des autoroutes fonctionnelles et fiables.
La réforme du financement des soins, elle, a passé la rampe, un oui à 53,3%, qui est loin d'être unanime. Il l'emporte en Suisse alémanique, mais les 6 cantons romands ont rejeté EFAS. À partir de 2028, tous les soins seront financés selon une même clé de répartition entre les assureurs maladies et les cantons. Cela doit inciter à prendre plus clairement le virage de l'ambulatoire et ralentir la hausse des primes maladies. La réforme de la loi était soutenue par la grande majorité des acteurs de la santé, une union sacrée qui fera date selon le vice-président de la fêtière des hôpitaux suisses H+, le directeur de l'hôpital de Bienne, Christian Schneider.
Ce signal, c'est le plus important qu'on donne aujourd'hui. On peut encore mettre en place une réforme. En Suisse, on a vraiment du mal dans un système très compliqué où les gens ne s'en sortent plus avec les règles, qui fait quoi. Je pense là, on a montré que tous les acteurs se sont mis autour de la table et sont derrière. Et avec ceci, ils disent aussi, on est aussi derrière avec tout le travail qu'on va avoir pour mettre en œuvre quelque chose qui fait beaucoup plus de sens, qui est moins lourd pour la population, mais qui garantit à long terme la même qualité des prestations où on peut être fier en Suisse.
La réforme du financement uniforme des soins était combattue par un référendum porté par le syndicat du service public. Le rejet d'EFAS en Suisse romande pourrait avoir un lendemain. La réaction de la secrétaire du SSP, Béatrice Rosende.
On ne va quand même pas dire que c'est une victoire, parce que globalement, si la population, de manière majoritaire, dit oui à cette révision de la loi, bah, ça sera oui. Ce qui est extrêmement préoccupant pour notre syndicat, parce que comme on le dit depuis le début, ça va vraiment accélérer les privatisations et puis le désengagement des cantons dans la plupart de la Suisse.
Est-ce qu'aujourd'hui, notamment en Suisse romande, la caisse unique, elle a marqué des points?
On a senti une vraie colère chez les payeurs de primes qui disent « ça suffit, maintenant c'est pas possible ». Il faut vraiment qu'on reprenne cette question et qu'on essaye de convaincre à travers tout le pays qu'on doit changer de paradigme dans le financement du secteur de la santé.
Et puis enfin, les réformes du droit du bail n'ont pas convaincu les citoyens. Le durcissement des conditions de sous-location est refusé à 51,6%. La résiliation facilitée pour le besoin du propriétaire à 53,8%. Ces projets émanaient du Parlement et étaient vivement combattus par la gauche et les associations de locataires. La conseillère nationale socialiste Jessica Jacou commente ce résultat.
Il montre que toutes les réformes qui se font au détriment des locataires, qui sont vraiment unilatérales, n'ont aucune raison d'être et qu'elles sont donc refusées par le peuple. Et c'est important comme signal politique parce que le Parlement va devoir ces prochains mois traiter de 2 nouveaux objets, de 2 nouvelles réformes qui vont dans le sens uniquement des bailleurs, afin d'augmenter les loyers plus facilement et de limiter les contestations des loyers par les locataires. Donc c'est un signal que nous accueillons très positivement. Ça veut dire que quand on fait des réformes sur le dos des locataires, le peuple dit non.
Des propos recueillis par Marie Vuillemier.
Et à 18h14, c'est l'heure du sport.
Sport. Clément Noël s'impose à Gourgel. Le Français a remporté le slalom autrichien cet après-midi en Coupe du Monde de ski alpin. Il s'offre un 2e succès en 2 courses dans la discipline cet hiver. Il a devancé de plus de 40 centièmes le Suédois Christopher Jakobsen et le Norvégien Atieli Magres. Le Valaisan Loïc Meillard décroche un top 5 à 60 centièmes du tricolore après une belle remontée en 2e manche. Son compatriote Daniel Yule est 13e. Football, Lugano domine Zurich dans le duel de haut de tableau de Super League. Les Tessinois ont gagné 4-1 sur leur terre et prennent provisoirement la place de leader du championnat. Deux autres rencontres se déroulent en ce moment. Bâle et Servette font match nul un partout pour l'instant. C'est toujours 0-0 entre Saint-Gall et Yverdon. L'équipe de Suisse de basket reste invaincue. Elle a battu l'Azerbaïdjan 85-55 aujourd'hui à Bakou. C'était à l'occasion de la première phase des préqualifications à la Coupe du Monde 2027 au Qatar. La Suisse s'offre un quatrième succès en autant de matchs et est pratiquement assurée de disputer le prochain tour qualificatif. C'est la fin de cette édition. En cette journée d'élection et de votation, rendez-vous demain dans la matinale pour d'autres retours. D'ici là, excellente soirée à l'écoute d'RJB.